أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون
Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a donné naissance à une communauté de croyants dont le cœur débordait de foi, des croyants qui avaient la certitude et la foi que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était le dernier prophète de Dieu. Et que c'est par son truchement que la foi avait atteint sa perfection, et que c'est en pratiquant les préceptes de cette foi que l'on pourra avoir le plaisir de Dieu. Lorsque les compagnons ont effleuré l'apogée de leur foi, chacun de leurs mouvements, chacune de leurs actions ont été accomplies que pour le plaisir de Dieu. Une bonne œuvre est celle qui est accomplie uniquement pour le plaisir de Dieu. Dans ces versets, l'on trouve mention de ces personnes qui ont apporté en elles une grande révolution grâce au pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes qui avaient abandonné leurs mauvaises habitudes du passé et qui étaient fermes dans leur foi et qui ont prouvé qu'elles étaient prêtes à faire tout sacrifice pour leur foi et dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Elles ont prouvé aussi, ces personnes, qu'elles étaient prêtes à endurer des supplices sans broncher si elles devaient le faire. Lorsqu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas répliquer aux attaques, leur foi leur dictait qu'il fallait endurer ces souffrances sans se plaindre. Les bonnes œuvres signifiaient que l'on ne devait pas répondre au mal par le mal. Lorsqu'ils ont reçu l'ordre de s'exiler, la foi et les bonnes œuvres leur dictaient qu'ils devaient s'exiler sans aucune hésitation. Et lorsqu'ils ont reçu l'ordre de prendre les armes contre l'ennemi, la foi et leurs bonnes œuvres leur dictaient qu'ils ne devaient pas se soucier de leur situation et de châtier l'ennemi, et de ne pas se soucier s'ils possédaient des armes ou pas, ou de ne pas se soucier de la puissance de leur ennemi. Après avoir cru, toute action doit être accomplie pour le plaisir de Dieu. Et l'on doit aussi considérer sa vie comme une charge qui a été confiée par Dieu. Les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam se sont acquittés de leur devoir. Et Allah déclare que je ferai certainement entrer de telles personnes au paradis. Dans ce paradis où il y a des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ces personnes recevront des faveurs perpétuelles et la vie éternelle là-bas. C'est la meilleure des récompenses que nous accordons à toute personne dont la foi est parfaite et qui accomplit ses œuvres uniquement pour la cause de Dieu. Ces personnes sont de celles qui ont fait ces sacrifices, des personnes qui ont fait preuve d'une très grande patience. Ce sont des personnes qui ont préservé leur foi. En ayant une confiance parfaite en leur Seigneur, ils avaient la certitude que si nous faisions preuve de patience, et si nous protégeons notre foi, et si nous accomplissions chaque œuvre uniquement pour la cause de Dieu, eh bien Dieu, celui qui respecte ses promesses, va certainement nous récompenser. Le fait de renforcer sa foi et le fait d'accomplir de bonnes œuvres sont le résultat du pouvoir sanctifiant qu'avait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons. Aujourd'hui, je vais présenter quelques hadiths concernant le sujet de la patience et l'on comprendra quels sont les principes qui ont été enseignés par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et comment les compagnons qui n'ont cessé de progresser dans leur foi ont été de grands exemples de patience et de persévérance. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment faire preuve de patience et de persévérance au cours de la vie ordinaire et face à l'ennemi. Il nous a prodigué des conseils concernant nos actions en toute situation. Le premier hadith que je vais citer ne concerne pas le comportement vis-à-vis l'ennemi, mais concerne la vie familiale et la patience que l'on doit démontrer quotidiennement dans les relations entre époux. Beaucoup de femmes m'écrivent à ce sujet et lorsqu'elles me rencontrent, elles évoquent aussi leurs doléances. Par exemple, certains disent que nous n'avons que des filles et pas de fils, et notre mari ou nos beaux-parents nous tourmentent à ce sujet. Ils ont rendu notre vie impossible à la maison. Des fois, ce sont les filles qui m'écrivent en disant que notre père ne nous traite pas bien. et nous vivons un enfer permanent à la maison. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne connaissance de la religion, qui travaillent aussi pour la communauté, mais leur comportement à la maison est condamnable. Après avoir entendu ce hadith, je ne pense pas qu'aucune personne qui possède la moindre once de foi pourra tourmenter son épouse ou ses filles. Hadrat Aisha radhiyallahu anha déclare que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui a été éprouvé en n'ayant que des filles et qui a fait preuve de patience, ses filles seront une barrière entre lui et le feu. En ce bas monde, qui est celui qui n'a pas commis de faute? Qui est celui qui n'a pas commis de petits péchés? Et qui est celui qui ne veut pas jouir de la protection de Dieu? Certainement, tout le monde désire la protection de Dieu. Ceux qui n'ont eu que des filles ont reçu la bonne nouvelle qu'ils jouiront de la protection de Dieu grâce à ces filles. Quand on a des enfants ici, il y a des problèmes et on doit résoudre des problèmes. Et dans cette société aussi, nous voyons nombre de difficultés au sujet des filles. Il faut endurer tout cela et on ne doit pas dévoiler cela aux filles et on ne doit pas rendre la vie de leur mère un enfer. Voilà les signes d'un véritable croyant. Ses bonnes actions se transformeront en une barrière entre lui et le feu. Et il y a aussi un autre hadith où l'on trouve des conseils pour ceux qui se mettent en colère pour des broutilles. En raison de leur tempérament colérique, ces personnes ne désirent pas se mêler aux autres dans la société. Un compagnon du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam rapporte un hadith dans lequel il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le musulman qui entre en contact avec les autres et qui endure patiemment leurs paroles malveillantes est meilleur que ce musulman qui n'aime pas se mêler aux musulmans et qui ne fait pas preuve de patience face à leurs paroles malveillantes. En se mêlant aux autres, il se peut que les autres soient influencés par ses bonnes qualités. Il se peut que d'autres puissent en tirer leçon, et il se peut que les gens puissent aussi se réformer en voyant de bons exemples. En se rencontrant, il se peut qu'on arrive à se réformer les uns les autres. Et en raison de sa patience, l'homme devient de plus en plus persévérant et c'est ainsi qu'il arrivera à accomplir davantage de bonnes œuvres. Ici, il est dit que l'on doit générer en soi cette endurance et cette patience. On doit aussi éviter toutes ces petites disputes qui sont le résultat de l'impatience. À ce même sujet, il y a un hadith qui a été cité par Hadrat Abu Huraira qui a déclaré que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le plus fort n'est pas celui qui arrive à jeter son adversaire au cours de la lutte. Celui qui est le plus fort est celui qui arrive à maîtriser sa colère lorsqu'il se met en colère. selon Dieu et son prophète, celui qui est le plus fort et celui qui arrive à maîtriser sa colère. Voilà la bonne action qui va rapprocher le croyant de Dieu. Quel était l'exemple sublime du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la patience et la persévérance? Hadrat Aïcha radhiyallahu anha déclare que jamais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a frappé quelqu'un et n'a jamais frappé de femme ni de serviteur, sauf lorsqu'il est sorti sur le champ de bataille pour la cause de Dieu. Jamais le saint prophète, paix soit sur lui, ne s'est vengé contre une personne qu'il avait fait souffrir. Mais lorsqu'on profanait un signe de Dieu, lorsqu'on était coupable de sacrilège, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, se vengeait pour la cause de Dieu. Voilà l'exemple sublime du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous présente l'image véritable de la patience. Dans un hadith cité par Hadrat Abu Kabsha, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit que je vous conseille trois choses. Et souvenez-vous d'une autre parole. Le saint prophète a dit que les biens d'autrui ne sont pas moins que l'aumône. Et celui qui a été lésé mais qui fait preuve de patience sera honoré par Dieu. À propos de la patience, l'on doit se souvenir du fait que si l'on est persécuté pour la cause de Dieu et que l'on fait preuve de patience, l'on sera honoré par Dieu lui-même. Si les gens de notre société arrivaient à comprendre cela dans leurs relations quotidiennes, eh bien, il va régner la paix au sein de la société. Umar bin Saad rapporte de son père que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la situation du musulman m'étonne. Lorsqu'il reçoit un bien quelconque de la part de Dieu, il le remercie. Et lorsqu'il passe par une épreuve, il a l'espoir d'en être récompensé et il fait preuve de patience. Le musulman est récompensé en toute situation. Il est même récompensé pour la bouchée de nourriture qu'il met dans sa bouche. Un autre compagnon a déclaré que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le traitement du croyant est étonnant. Toutes ces tâches sont bénies. Cela n'est réservé que pour le croyant. Lorsqu'il reçoit quelque chose de bien, il remercie Dieu. Et sa gratitude lui fait mériter davantage de bénédictions. Et s'il subit quelque souffrance ou quelque perte, il fait preuve de patience. Et cette action de sa part lui rapportera que du bien. Car en faisant preuve de patience, il sera récompensé. Dans un autre hadith, Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu a déclaré que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que toute souffrance, tout malheur, toute tristesse, même l'épine qui touche un croyant sont autant d'expiations aux yeux de Dieu grâce auxquelles il pardonne le croyant. Il y a un très long hadith dans lequel l'on trouve mention des gens que Dieu aime et des gens que Dieu déteste. Je vais présenter ce hadith. Mutarif bin Abdullah rapporte que j'ai entendu un hadith qui a été cité par Hadrat Abu Zar. Je désirais rencontrer Abu Zar afin d'entendre ce hadith de sa bouche. Lorsque finalement j'ai rencontré Abu Zar, je lui ai dit que je désirais entendre ce hadith de votre bouche. Abu Zar m'a dit de poser ma question. Je lui ai dit que j'ai entendu que vous avez dit que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il y a trois personnes que Dieu aime et qu'il y a trois personnes que Dieu déteste. Hadrat Abu Zar a déclaré « Oui, j'ai dit cela et je ne peux mentir au nom du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. » Il a répété cela à trois reprises. Je lui ai demandé « Quelles sont ces trois personnes que Dieu aime ?» Il a répondu « La première personne est celle qui est sortie pour se battre pour la cause de Dieu. » et qui est tombé un martyr sur le champ de bataille afin de recevoir ses récompenses de la part de Dieu. Et vous avez lu dans le livre de Dieu que celui-ci aime ceux qui se battent en rang pour sa cause. L'autre personne est celle qui est tourmentée par son voisin, mais qui fait preuve de patience et qui se maîtrise jusqu'à ce que Dieu lui accorde la paix grâce à la vie ou la mort. L'autre personne est celui qui voyage avec les autres et qui évite le sommeil dans la dernière partie de la nuit et qui fait ses ablutions et pour prier. Le rapporteur a dit, « Dites-moi, quelles sont ces trois personnes que Dieu déteste ?» Il a déclaré, « Dieu déteste les orgueilleux et les arrogants. Vous avez lu dans le livre de Dieu que celui-ci a déclaré qu'il déteste ceux qui sont orgueilleux et arrogants. Et il déteste aussi l'avare qui fait étalage de ses faveurs accordées. Et Dieu déteste aussi le commerçant qui jure en son nom afin de vendre ses marchandises. » Parmi les trois personnes que Dieu aime, il y a celui qui fait preuve de patience. Hadrat Ali radhiyallahu anhu a déclaré que la patience a la même importance dans la foi que la tête a de l'importance pour le corps. S'il n'y a pas de patience, il n'y a pas de foi. Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont conseillé le croyant comment exprimer ses sentiments lorsqu'il est frappé de malheur. Dieu et son prophète lui ont prodigué des conseils à ce sujet. Comment il doit se comporter, comment il doit prier. Ulmi Salma radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui est frappé d'un malheur et qui récite cette parole de prière Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayra minha, à savoir que nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ô mon Seigneur, récompense-moi pour ce malheur qui m'a frappé et accorde-moi quelque chose de meilleur après cela. Si le croyant agit ainsi, il sera certainement récompensé par Dieu et il recevra quelque chose de meilleur. Ces malheurs, ces difficultés, on les rencontre au cours de la vie personnelle, au sein de la communauté et aussi dans la société en général. Voilà le principe que l'on doit adopter, à savoir que l'on doit tout le temps se prosterner devant Dieu et que l'on doit faire preuve de patience et de persévérance et que l'on doit essayer de profiter de sa protection et lui demander ses récompenses. Dans le Saint-Coran, Dieu a déclaré la même chose à propos de ceux qui sont frappés de malheur ou qui passent par des épreuves. Allah déclare Allazina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ceux qui, quand frappe malheur, disent assurément nous appartenons à Allah et certainement c'est à lui que nous retournerons. Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions de leur Seigneur et aussi la miséricorde, et ce sont ceux-là qui sont les bien guidés. Je vais maintenant mentionner quelques incidents qui concernent, qui sont bien guidés, des personnes qui ont aussi profité de la bénédiction de Dieu, des personnes qui ont profité de sa proximité et de sa tarbiya, des personnes qui ont fait preuve d'une très grande persévérance. Hadrat Aisha radhiyallahu anha a déclaré que lorsque les musulmans ont été persécutés et éprouvés, Hadrat Abu Bakr a voulu s'exiler en Abyssinie et il a quitté la Mecque. Lorsqu'il est arrivé quelque part, il a rencontré le chef d'une tribu, une personne qui s'appelait Ibn Darina. Il lui a demandé « Où vas-tu comme ça ?» Abu Bakr a tout simplement déclaré que « Mon peuple m'a expulsé et j'ai décidé de m'établir quelque part afin que je puisse rendre culte à Dieu en toute liberté. » Ibn Darina lui a dit que « Vous ne devez pas, en raison de votre statut, quitter la Mecque et les gens n'auraient pas dû vous en expulser. Vous êtes de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, des œuvres qui ont été oubliées. Vous traitez avec aménité les parents, vous soutenez ceux qui sont sans soutien et vous êtes un très bon hôte et vous soutenez les démunis. Je vous accorde ma protection, retournez dans votre ville. » Hadrat Abu Bakr est retourné à la Mecque et Ibn Darina l'a accompagné et il est parti voir les chefs des Qurayshites et il leur a dit qu'on ne devait pas expulser Abu Bakr et on ne devait pas le pousser à quitter cette ville. Allez-vous expulser les personnes qui possèdent de grandes qualités? Les Qurayshites ont accepté la protection qu'avait accordé Ibn Darina à Abu Bakr. Lui ont dit de dire à Abu Bakr de prier chez lui à la maison et de faire ce que bon lui semble, mais qu'il ne doit pas les tourmenter par ses pratiques et qu'il ne doit pas exprimer sa foi à haute voix. Les chefs Qurayshites ont dit que nous avons peur qu'il nous détourne nos femmes et nos enfants. Ibn Darina a informé Hadrat Abu Bakr au sujet de leur demande, et Hadrat Abu Bakr a commencé à prier chez lui, et il ne priait pas à voix haute, et il lisait le Saint-Coran uniquement à sa maison. Mais après cela, il a décidé de bâtir une mosquée dans sa cour, où il a commencé à prier et à réciter le Saint-Coran. Et les femmes et les enfants des Qurayshites essaient de voir ce qui se passait, et ils ont été profondément influencés par les pratiques de Hadrat Abu Bakr. Hadrat Abu Bakr ne pouvait maîtriser ses émotions lorsqu'il récitait le Saint-Coran et il pleurait beaucoup lorsqu'il lisait le Saint-Coran. Ces pratiques ont apeuré les chefs des Qurayshites et ils ont envoyé un messager à Ibn Darina. Et ils lui ont dit que nous avons accepté la protection que tu as accordée à Abu Bakr à condition qu'il prie chez lui à sa maison. Mais il n'a pas respecté ces conditions. Il a bâti une mosquée dans sa cour et il récite le Saint-Coran à voix haute. Et nous avons peur qu'il ne détourne nos femmes et nos enfants. Demande-lui s'il a rejeté ta protection. Nous ne voulons pas briser l'engagement que nous avons pris avec toi et nous ne pouvons pas donner la permission non plus à Abu Bakr de réciter le Saint-Coran à voix haute. Hadrat Aïcha rapporte que Ibn Darna est parti voir Abu Bakr et lui a dit de respecter l'engagement qu'ils avaient pris ou de le libérer de son engagement. Il a déclaré que je ne veux pas que les Arabes disent que vous n'avez pas respecté votre engagement avec moi. Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a dit que je vous retourne votre protection et je préfère la protection de Dieu. Après cela, les Quraychites ont persécuté Hadrat Abu Bakr, mais il était ferme comme un roc. Selon les rapports, on dit que les kuffars tabassaient Abu Bakr, on lui tirait par les cheveux de la tête et il avait perdu la plupart de ses cheveux. On l'avait persécuté, mais il a fait preuve de patience. Voilà la situation que nous voyons au Pakistan. Ils disent que les Ahmadis ne peuvent pas prier ouvertement, car sinon, nous allons, en tant qu'Ahmadis, égarer ceux qui sont faibles parmi eux. Ils vous ont dit que si vous priez ouvertement, vous allez vous poser en musulman. Et c'est pour cette raison qu'ils ont passé cette loi. Hier, dans deux endroits, on a publié cette nouvelle dans les journaux que les mollahs ont informé la police que les Ahmadis ont immolé des animaux le jour de l'Aïd. C'est là une des pratiques de l'islam et on doit les en empêcher car par ce faire, ils ont blessé nos sentiments. La police a appelé les Ahmadis et leur a averti qu'ils ne doivent pas sacrifier ces animaux ouvertement. Ils doivent le faire à l'intérieur de leur cour et ne doivent pas le faire à l'extérieur. Ils n'ont pas le droit en tant qu'Ahmadis d'immoler ces animaux car par ce faire, ils vont blesser les sentiments des musulmans. Généralement, les Ahmadis le faisaient chez eux à la maison et ils n'informent que leurs proches parents à ce sujet. En tout cas, ces mollahs voulaient tout simplement créer des troubles. Ils ne cherchaient que des prétextes. Selon un autre rapport, il est dit que lorsque Hadrat Umm Shariq a embrassé l'islam, elle a commencé à prêcher le message de l'islam aux femmes secrètement. Nous allons voir un autre exemple de patience et de persévérance. Lorsque les Quraychites ont su cela, ils lui ont dit que nous allons t'apporter à ta tribu. Ils l'ont fait voyager sur un chameau non scellé. Pendant trois jours, ils n'ont pas donné à boire ni à manger à cette dame. En fin de compte, elle avait complètement perdu ses sens. Ses persécuteurs se sont arrêtés quelque part et l'ont placée en plein soleil, alors qu'ils se sont placés dans l'ombre. Umm Shariq a dit que dans cet état, j'ai vu un bol d'eau. J'en ai bu un peu, mais ce bol s'est éloigné de moi. Cela s'est passé à plusieurs reprises. Mais en fin de compte, j'ai ressenti que j'étais complètement rassasié. Ensuite, Umm Shariq a dit que j'ai pris le reste de l'eau et je l'ai jeté sur moi. Lorsque les gens se sont levés et ont vu les traces de l'eau, ils lui ont dit que tu t'es libéré et tu as consommé notre eau. Umm Shariq a déclaré que non, je jure par Dieu, je n'ai pas fait cela. Et elle a rapporté tout l'incident. Ses persécuteurs lui ont dit que si c'est vrai, eh bien, certainement ta religion est vraie. Après cela, ils ont regardé leur eau et ils ont constaté que leur eau était intacte, que personne n'avait touché leur eau. Et c'est pour cette raison qu'ils ont, en fin de compte, embrassé l'islam. Voilà donc comment Dieu a récompensé cette dame pour sa patience. Elle n'avait rien mangé et bu pendant trois jours. Et Dieu a effacé sa faim et sa soif. On rapporte qu'Abu Fouqayh était un esclave des Banu Abdoudar. Lorsqu'il avait embrassé l'islam. Ces derniers le persécutaient, mais il faisait preuve de patience. Les gens de sa tribu enlevaient ses vêtements, l'attachaient avec des fers et le plaçaient en plein soleil et plaçaient des pierres sur son dos. Suite à ces supplices, Abu Fouqeh perdait connaissance, mais il a tout le temps fait preuve de patience et de persévérance. On connaît des incidents à propos de Hadrat Bilal, radhiyallahu anhu. Il était l'esclave de Umayya bin Khalf. Umayya le plaçait en plein soleil à midi, l'allongeait sur le sol et plaçait des pierres sur son corps et lui disait de rejeter le saint prophète et d'adorer Lat et Uzza, ses faux dieux. Bilal répondait tout simplement « Ahad, Ahad », à savoir que Dieu est unique. Un jour, Abu Bakr l'a vu dans ses supplices et a échangé Bilal avec un autre esclave et a libéré Bilal. Il y a aussi un incident qui concerne Hadrat Khubab. Un jour, Khubab s'est présenté à la cour du deuxième calife, Hadrat Umar. Umar, radhiyallahu anhu, lui a demandé de s'asseoir à côté de lui dans un endroit privilégié. Il lui a dit, « Khubab, tu mérites le privilège de t'asseoir ici. Et hormis toi, seul Bilal mérite ce privilège. » Khubab a déclaré au Amirul Mu'minin, certes Bilal mérite ce privilège, mais il y avait des gens qui étaient là pour protéger Bilal des mains des politistes, mais personne n'est venu me protéger de leur persécution. Un jour, les kuffars m'ont arrêté et m'ont jeté sur des braises ardentes, et quelqu'un a placé son pied sur ma poitrine, et Khubab a montré son dos à Hadrat Umar. Il y avait sur son dos des traces toutes blanches de sa peau et de sa chair qui ont été brûlées. Hadrat Khubab était un forgeron et il fabriquait des épées. Le saint prophète venait le rencontrer pour le consoler. Un jour, sa maîtresse, qui s'appelait Amar, a su cela et elle a placé un fer chaud sur la terre de Hadrat Khubab. Celui-ci en a informé le saint prophète. Le saint prophète a prié « Allahu Mansur Khubab »« ou Allah aide Khubab ». Conséquemment, sa maîtresse est tombée malade, elle avait mal à la tête et elle a commencé à hurler comme un chien. Et selon les médecins traditionnels de l'époque, ils ont dit que sa seule guérison, c'est de placer un fer chaud sur sa tête. Et Khubab a déclaré que c'est moi qui ai placé ce fer chaud sur sa tête. Voilà donc comment Dieu lui a récompensé et comment Dieu s'est vengé de lui. Lorsque Hadrat Osman a vu que les compagnons du saint prophète Mohammed P. lui étaient persécutés âprement, alors qu'il vivait lui sous la protection de Walid bin Mughira, il a dit, moi je suis en train de vivre sous la protection d'un polythéiste alors que les autres sont en train de souffrir. Je suis certainement coupable d'une mauvaise action. Mes frères sont en train de subir ces persécutions en raison de leur foi. Et il a dit à Walid bin Mughira que, ô Abu Abdushams, je n'ai plus besoin de ta protection. Celui-ci lui a dit, ô mon neveu, est-ce que quelqu'un t'a lésé? Osman a déclaré que je préfère la protection de Dieu et je ne veux pas jouir d'une autre protection. Walid a déclaré, viens avec moi dans l'enceinte de la Kaaba et annonce que tu rejettes ma protection tout comme j'ai annoncé à tout le monde que je t'ai accordé ma protection. Osman déclare que nous sommes partis dans l'enceinte de la Kaaba et Walid a déclaré, voilà, Osman, et il est en train de rejeter ma protection. Ousmane a déclaré, oui, c'est vrai, j'ai été très honoré par sa protection, mais je préfère la protection accordée par Dieu. C'est pour cette raison que je lui retourne sa protection. Et Ousmane est parti. Il y avait là Labi bin Rabia, un poète qui était en train de présenter ses vers aux Quraychites. Ousmane s'est assis à côté de lui et le poète a déclaré que, hormis Dieu, tout est faux. Hormis Dieu, tout est faux. Et Ousmane a répliqué que c'est là la vérité. Et le poète a déclaré que toute faveur arrivera à sa fin. Ousmane a répliqué que cela est faux, car les faveurs du paradis sont éternelles. L'habit s'est adressé aux Quraychites et ont dit, « Auparavant, personne d'entre vous ne m'a lésé, ne m'a blessé. » Quelqu'un lui a dit que Ousmane et ses compagnons sont des fous et ils se sont détournés de notre foi. Ne sois pas blessé par ces paroles. Hadrat Ousmane a répliqué, et cette situation s'est envenimée et une personne s'est levée et a frappé Ousmane à l'œil et un de ses yeux est sorti de son orbite. Walid bin Mughira a vu tout cela. Il a dit, « Oh mon neveu, si tu n'avais pas rejeté ma protection, ton œil serait sain et sauf. » Ousmane a tout simplement déclaré que je jure par Dieu, mon autre œil mérite le même traitement. Ô Abu Abdeshams, je suis sous la protection de celui qui est plus honorable que toi et celui qui est beaucoup plus puissant que toi. Walid bin Mughira a déclaré, ô mon neveu, je peux t'accorder de nouveau ma protection. Mais Ousmane a rejeté cela. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait montré à ses compagnons de nouvelles méthodes pour exprimer leur amour et leur patience. Certains compagnons ont été faits prisonniers dans l'incident de Raji, et parmi eux, il y avait Zayd bin Desna. Safwan bin Umayya l'avait acheté afin qu'il puisse se venger parce que Zayd avait tué son père. Lorsqu'on était près d'exécuter Zayd, Sufyan lui a demandé, « Ne désire pas que Mohammed soit exécuté à ta place aujourd'hui et que tu sois chez toi à la maison. » Zayd a répondu, « Je jure par Dieu, je ne désire même pas que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, soit touché par une épine là où il se trouve maintenant, alors que moi je suis à la maison. » Abu Sufyan a déclaré que je n'ai jamais vu d'autres personnes éprouver un si grand amour pour quelqu'un d'autre que l'amour éprouvé par les compagnons du saint prophète envers lui. Les mères musulmanes conseignaient aussi leurs enfants à faire preuve de patience et de persévérance. Le jour où on allait exécuter Abdullah bin Zubair, il était parti voir sa mère. Sa mère lui a dit, « Oh mon fils, par peur de la mort, n'accepte pas une condition pour laquelle tu devras accepter l'humiliation. Il vaut mieux mourir sous le coup de l'épée avec l'honneur que de vivre dans l'ignominie. » Grâce à cela, l'on comprend la détermination de cette mère et son sens de l'honneur. Il a demandé à son fils de ne pas faiblir dans sa foi. Voilà donc de grands exemples de patience et de persévérance que nous voyons dans l'histoire de l'islam parmi les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. En évoquant ces exemples, le Messie premier l'Islam déclare que je viens de mentionner que sa vie durant, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fut jamais le premier à brandir l'épée. En effet, il souffrit pendant une longue période aux mains des incroyants et démontra un degré de patience peu ordinaire. Ses compagnons se tinrent fermement au même principe élevé, agissant selon les commandements qu'ils avaient reçus, subissant des atrocités tout en démontrant de la patience. Ils se laissèrent piétiner sans émettre le moindre son. Leurs enfants furent déchiquetés devant leurs propres yeux. Ils furent torturés par le feu et par l'eau. Mais comme des nourrissons innocents, ils ne ripostèrent pas contre ces malveillances. Qui pourra citer l'exemple du peuple d'un autre prophète qui, malgré le fait de posséder la capacité de riposter, se serait plié au commandement de Dieu et aurait exercé une telle retenue? Qui peut prouver l'existence d'un autre groupe tel que celui-ci? Car c'était là un peuple qui possédait la bravoure, l'unité, la force, la capacité de combattre et toutes les qualités masculines, mais qui, cependant, s'était contenu en maintes occasions pendant ces 13 années face à un ennemi impitoyable et sanguinaire. La patience démontrée par notre Seigneur et Maître sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'était pas due à leur impuissance. En fait, les mains et les bras de ses compagnons dévoués, qui se maîtrisaient pendant cette période de patience, n'avaient subi aucune modification suite à la permission de faire le djihad. En une occasion, seulement 1 000 000 de jeunes musulmans réussirent à vaincre 100 000 soldats. Ces événements furent ainsi afin que les gens sachent que la patience relevée à la Mecque ne provenait pas d'une certaine faiblesse ou vulnérabilité. Les musulmans déposèrent leurs armes en entendant le commandement de Dieu et furent prêts à être sacrifiés comme des chèvres et des moutons. Ce type de patience est certainement au-dessus de la capacité humaine. Même en étudiant l'histoire du monde entier et de tous les prophètes, l'on ne pourra trouver une telle abondance de vertus au sein d'une autre communauté ou parmi les suivants d'un autre prophète. Lorsque nous entendons certains récits sur des exemples de patience témoignés de le passé, étant donné les conditions qui prévalaient en ces temps, nous réalisons immédiatement que cette patience découlait de la lâcheté ou de l'incapacité de riposter. Mais le saint prophète et ses compagnons firent preuve d'une bravoure authentique au cours de cette période de 13 ans. Malgré le fait d'être de vaillants soldats au cœur dur, malgré le fait d'être persécutés, et transpercés par des lances et témoins de l'assassinat de leurs enfants, ils ne se défendirent point contre ces méchancetés. Une telle persévérance, très endurant face à ces tribulations effroyables, n'a pas d'égal. Ceux qui en doutent devront venir en avant pour nous donner un exemple similaire de ténacité parmi les gens pieux du passé. Il faut noter que malgré l'extrême injustice subie par ses compagnons, notre saint prophète ne suggérera aucun plan pour en échapper de son propre chef. Par contre, il exhorta ses compagnons à se montrer patients malgré toutes les souffrances qu'ils enduraient. Quiconque demandait la permission de se venger était réfréné et conseillé. Il leur disait : j'ai été commandé d'être patient. Tant que le commandement de contre-attaquer ne descendit pas du ciel, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha toujours la constance. Cherchez donc un exemple d'une telle force morale dans les temps les plus éloignés jusqu'aux temps les plus récents. Essayez de trouver de tels exemples et de nous présenter, si possible, un exemple d'un tel compagnon parmi les adeptes de Moïse ou de Jésus. Qu'Allah nous accorde patience et persévérance, surtout dans ces pays, au Pakistan et ailleurs, où l'on est en train de tourmenter âprement les Ahmadis, dans ces pays où on est en train de rendre leur vie difficile. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance, et que Dieu manifeste sa puissance spéciale et qu'il attrape leurs ennemis. Et que chacune de nos actions puisse attirer le plaisir de Dieu, et que nous soyons les héritiers de ses faveurs.